Bienvenue. Je suis Aurélie. J'ai longtemps été écrasée au sol par ma charge mentale comme 8 femmes sur 10. Puis, j'ai vécu une révolution. Si toi aussi, tu es super impliquée sur tous les fronts, tu poursuis des objectifs de succès ambitieux, tu te questionnes sur ta carrière, mais tu ne sais pas où trouver les réponses, alors tu es au bon endroit. Je te propose toutes les semaines des clés pour reprendre les rênes. Parfois seule, parfois accompagnée, je répondrai à toutes tes questions qui parlent de carrière, d'état d'esprit et d'équilibre. Si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et on passe à la question du jour. Hello, on continue la série avec Sonia. Dans l'épisode d'hier, on a appris grâce à elle que 80% du succès d'un atelier collaboratif, c'est la préparation. On continue aujourd'hui avec la partie 2, la vie de l'experte.
Alors, aujourd'hui, on est là pour l'épisode 2 de Sonia. On va continuer à parler de facilitation. Et j'avais une première question pour toi qui était, d'après toi, pourquoi il est urgent de modifier la manière dont on anime les temps collectifs ? Parce que j'ai lu qu'il y a plus de 30% des salariés désormais qui sont en remote. Donc, en quoi c'est obligatoire de changer et qu'est-ce qui manque à l'animation collective à distance ?
Alors, un vrai sujet, effectivement, animé à distance, c'est de plus en plus fréquent. C'est vrai que c'est pas un exercice qui est toujours facile. Si tant est que tout le monde déjà allume sa caméra, ça veut dire que c'est déjà une bonne première nouvelle. Après, il y a quand même des façons de dynamiser les réunions à distance. Et notamment, il y a un certain nombre d'outils collaboratifs, comme par exemple Miro, Mural, Klaxoon, qui sont des outils en fait qui vont te permettre de à la fois interagir avec tes collègues et préparer aussi des supports d'atelier en amont. Et moi j'utilise beaucoup Mural, c'est un outil que j'aime beaucoup. Et en tout cas, je suis convaincue que la technologie aujourd'hui, elle peut vraiment nous aider à dynamiser les temps à distance. Il y a aussi un certain nombre d'outils de réalité virtuelle qui existent. Il y a Virbella, il y a Remo, il y a pas mal d'outils qu'on peut aller utiliser qui sont hyper ludiques et qui permettent d'être dans de la gamification aussi et d'engager du coup aussi ses participants. Donc moi, je vous engage à tester effectivement ces outils.
Je suis ultra fan de Mural que tu m'as fait découvrir. Donc je glisserai le lien dans les notes de l'épisode parce que c'est vraiment un outil qui est facile à prendre en main. Parce que du coup, souvent, quand on entend... outils collaboratifs, réalité virtuelle, on a un peu peur dans quoi on va tomber. Et en fait, c'est très, très facile à utiliser. Et moi, je l'ai déjà testé et ça marche hyper bien. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ça oblige, en tant que facilitateur, à bien préparer, on le verra dans le dernier épisode, l'avant, le pendant et l'après. Parce que souvent, on a tendance à aller directement au sujet du jour sans faire... sans un peu chauffer la salle, c'est comme si t'allais à un spectacle et boum, la personne arrive et personne n'a chauffé la salle et c'est un peu dur de commencer à chanter. Et puis à la fin c'est pareil quoi. Bon bah allez salut, c'était bien, au revoir. Bah en fait sinon ton action elle continue bien au-delà du temps d'atelier que tu as eu avec tes salariés.
J'avais tout à fait, ouais. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, du coup le Mural en fait c'est un tableau blanc. Sur lequel on peut tous travailler en même temps et c'est hyper pratique parce que du coup on va laisser des post-it, on va pouvoir coller des images, moi souvent je colle des slides aussi directement dans mon tableau blanc et ça s'utilise aussi simplement qu'un PowerPoint, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques particulières, c'est ultra puissant.
De ton expérience, il y a des ateliers auxquels on est volontaire pour participer. Moi, j'en ai suivi pas mal par toi. Et du coup, j'étais volontaire, donc je savais à peu près quelles étaient ce que j'allais vivre et quelles étaient mes attentes. Mais souvent, en tant que facilitateur, formateur, manager, on doit animer des temps collectifs. Donc, on a bien compris dans le premier épisode qu'une réunion, c'est moins de 30 minutes. Et si je fais un atelier, c'est pour faire co-travailler mes collaborateurs en même temps. Et si je suis pas volontaire, et qu'on m'a imposé un peu ce temps-là, quelles sont les attentes des collaborateurs qui pourraient, au début, se dire « je subis vraiment ce truc-là » ?
Déjà, la première chose, c'est que lorsqu'on est à l'initiative d'un atelier, on se doit, et ça fait partie de la préparation, d'informer les participants sur pourquoi ils vont être là. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver, comme tu le dis Aurélie, à un atelier où on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on va produire. Et en fait, on n'est pas engagé, on n'a pas envie. Voilà. Mais ça, c'est le job du facilitateur en amont, comme tu disais tout à l'heure, de chauffer sa salle, en fait, et d'expliquer pourquoi on va être là, quel est l'intérêt de la présence de chacun et chacune, et avec quoi on va repartir après cet atelier. Et déjà, en fait, tu vas t'éviter d'avoir des frustrations de « je ne sais pas pourquoi je suis là, je n'ai pas envie ». Ce qui ne veut pas dire que tu n'auras que des gens 100% motivés qui ont envie d'être là. Mais déjà, en amont, tu as fait ce travail-là d'aller informer, tout simplement, tes participants. Et moi, ce que je fais souvent aussi, c'est de prendre des attentes. On va travailler sur ce sujet-là lors de l'atelier, on va co-construire. De quoi avez-vous besoin ? Quelles sont vos attentes ? Et là aussi, en fait, tu les impliques avant, déjà, en prenant ces informations-là.
Oui, puisque je trouve intéressant, moi, je le fais aussi. Et là où je trouve que c'est malin, c'est à la fois, ça te permet de tester l'ambiance de la salle, de savoir s'il s'est passé des choses avant qui n'ont pas été bien gérées, et hop, elles ressortent là, un peu, genre, je jette mon slab.
Ouais.
Donc, à la fois, c'est cool parce que tu vois ce que tu as pu faire avant, qui a marché, pas marché. Tu vois quelles sont les inquiétudes ou les incompréhensions qu'il pourrait y avoir. Et surtout, ça te permet directement de recadrer sur, j'ai bien entendu, mais ce n'est pas l'objectif de l'atelier du jour ou de la formation du jour. Est-ce que c'est un moyen aussi de prendre la température au fur et à mesure et de ressortir du cadre du jeu, ce qui n'est pas à l'ordre du jour ?
Oui, oui, c'est une manière de clarifier auprès des participants ce qui va être clairement traité, ce qui ne va pas l'être. Comme tu dis, c'est une manière de prendre la température et de voir, est-ce que je vais avoir des personnes qui seront plutôt moteurs, qui vont hyper participer ? Est-ce que j'aurai des personnes qui seront plutôt dans la confrontation et qui vont avoir tendance plutôt à challenger les idées ? Auquel cas, c'est très bien parce qu'on a besoin de ces gens-là. Enfin, si tout le monde est d'accord sur tout le temps en atelier, c'est un peu lisse, quoi. Enfin, tu vois ? Donc, moi, je trouve que c'est intéressant en amont de comprendre les différentes personnalités que tu vas avoir et de les accueillir. Et si besoin, moi ça m'est déjà arrivé, d'aller échanger pour comprendre qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie d'être partie prenante dans ce projet, comment on peut envisager les choses. Ça permet d'entrer dans une discussion aussi.
Okay, cool, merci beaucoup. Donc on accueille tout le monde tel qu'il est. Et oui, on aura peut-être des contestataires. Oui, on aura peut-être des gens qui vont être un peu les empêcheurs de tourner en rond. Et ton conseil, c'est plutôt que de faire comme si on ne les voyait pas au fond de la salle en train de s'agiter, en se disant il va bien se calmer, c'est au contraire d'aller échanger avec lui pour un peu, lui ou elle, pour aller désamorcer.
Totalement. D'aller désamorcer avant même l'atelier. Et si l'atelier est déjà lancé, c'est aussi, on peut aussi avoir des personnes qui n'ont pas envie d'être là au moment de l'atelier. Ça peut être pour différentes raisons. Hein. Parfois, ça peut être des raisons personnelles, ça peut être des raisons de surcharge de travail, ça peut être plein de choses. Ça aussi, c'est de l'accueillir. Et moi, par exemple, il y a un exercice que j'aime bien faire en début de séance. Quand je sens que, par exemple, c'est une période chargée pour l'équipe ou des choses comme ça, je vais leur demander d'écrire sur un petit papier tout ce qui pourrait les empêcher d'être présents pendant la séance. Et de garder le petit papier dans la poche. C'est une façon de dire, il y a des choses qui sont en suspens, mais j'y reviendrai après, je ne les oublie pas, c'est là. Mais pour le temps qui est dédié à cet atelier, je vais pouvoir être totalement présent.
Ouais,
et ça marche bien.
Ouais, ça leur permet de se recentrer sur l'ici et maintenant.
J'espère que ce deuxième épisode de la série avec Sonia t'a plu. On se retrouve demain pour le troisième et dernier avec les conseils hyper pratiques de Sonia pour passer directement à l'action. À demain!